Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Geoffroy Lejeune, Gilles William oui. Golnadel, Jérôme Béglé, Olivier Dartigolle sont là pour une nouvelle semaine qui commence. Oui. Jean-Luc Mélenchon est à Sciences Po. Il a le droit, manifestement, après les annulations à Lille, et il annonce une conférence à Sciences Po, qui a placé la situation de Gaza au centre de la campagne de son parti pour les européennes de juin, et sans doute ce soir en parlera-t-il. Je vous propose d'abord de voir le tweet qu'avait fait Jean-Luc Mélenchon dans la journée pour annoncer ce lundi 22 avril, rendez-vous à 19h30 pour suivre en direct la conférence de Jean-Luc Mélenchon à Sciences Po. Et c'est sûr, en direct d'ailleurs également, qu'il est proposé. Et je vous propose, puisqu'il vient de parler à l'instant, d'écouter ses premiers mots.
Que mes premiers mots soient pour la direction de cet établissement qui a permis que se tienne notre rencontre. Au contraire d'autres qui, cédant aux pressions que par ailleurs ils dénonçaient, se sont mis à genoux devant la menace que, paraît-il, présentait ma présence et celle de Rima Hassan.
Bon, d'abord, c'est intéressant, effectivement, de voir qui peut être reçu à Sciences Po et qui, je crois que vous n'aviez pas le droit de faire une conférence.
Ils m'ont annulé, ouais.
Tout le monde est reçu à Sciences Po.
Non, tout le monde.
Sébastien Chenu a été reçu à Sciences Po.
Mais pourquoi vous dites ça, Geoffroy Lejeune, il n'a pas le droit.
Non, il faut faire une demande à la Open Bar.
Mais non, mais...
Raccourir que j'y aille maintenant, ouais, peut-être, oui. Il serait obligé d'équilibrer. Ah oui, non, moi j'ai vraiment été annulé, ouais.
Il était annulé. Est-ce que l'ambassadeur d'Israël pourrait...
Ce que je veux dire, c'est qu'un député RN, par exemple, a tenu une... Non, mais c'est pour vous montrer que...
Ne soyez pas de mauvaise foi, Alain Finkielkraut n'a même pas pu entrer à Sciences Po il y a deux ans.
Je vous dis que dans la toute récente période, y compris M. Chenu a dit « je trouve très positif de pouvoir organiser cette
réunion ». Est-ce que Meir Habib serait reçu à Sciences Po ? Est-ce que l'ambassadeur d'Israël en France serait reçu à Sciences Po ? Je pose la question sans malice, je n'ai pas de réponse.
Madame Bergeau-Blackler, je suis docteur en anthropologie universitaire HDR CNRS et je ne suis pas la bienvenue à Sciences Po Paris. En revanche, le leader d'un parti politique de surcroît antisémite et pro-islamiste peut y organiser une conférence. Est-ce normal ?
Non.
Et elle a effectivement mis... Cela à destination de Gabriel Attal. Écoutez, Yvan Lecoz, qui est de l'UNI et qui résume ce que tout le monde devine dans une université française comme Sciences Po.
On n'a pas demandé l'interdiction de la venue de Jean-Luc Mélenchon, tout simplement parce que, contrairement par exemple à la conférence de l'Université de Lille, cette fois-ci, c'est uniquement organisé par la France Insoumise et pas par une organisation pro-Palestine, si ce n'est pro-Hamas à côté. Donc, on a préféré ne pas demander l'interdiction. Par contre... On va montrer ce soir via différentes actions notre opposition à la venue de Jean-Luc Mélenchon. Et donc ça, on va le faire via des actions banderoles, mais également via des affiches à l'entrée de Sciences Po à 19h30 ce soir. L'objectif via ces affiches, c'est d'alerter sur l'antisémitisme qu'on peut retrouver à la France insoumise, la complaisance avec le Hamas ou tout simplement avec les islamistes plus généralement.
Et je voulais vous faire écouter également M. Lecoz lorsqu'il parle de la présence de l'extrême gauche à l'université qui a le droit de s'exprimer.
Parce que la France insoumise est d'extrême gauche, est le seul parti à pouvoir faire campagne au sein des universités. Jamais on ne pourrait voir n'importe quel autre parti, que ce soit Renaissance, Les Républicains, Reconquête ou le Rassemblement National, venir faire le tour des facs, comme la France insoumise le fait actuellement, pour y faire des meetings pour les élections européennes. Aujourd'hui, ils utilisent nos universités, donc des universités qui sont payées par le contribuable, pour faire campagne pour les élections européennes. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument scandaleux. Je ne pense pas que l'université soit un lieu de meeting politique. Les universités, on y est pour s'instruire, on y est pour apprendre, on n'y est absolument pas pour voir défiler les partis les uns après les autres, en l'occurrence, là, un seul parti, pour y faire des meetings pour les élections européennes.
D'accord. La liberté d'expression, évidemment, on est à 100% pour. Est-ce que l'université doit accueillir un meeting politique ? La question se pose. Est-ce que c'est...
Ça a toujours été
l'endroit.
J'ai toujours connu
non,
ça.
C'est pas vrai. Même moi, j'étais étudiant à l'université à Paris. On n'avait pas le droit de faire venir des hommes.
J'ai fait quelques années d'université.
Nous, Bordeaux 3, histoire.
Je n'ai jamais vu des leaders politiques.
Ça ne venait pas à l'esprit.
À la fac de Nantes, je n'ai jamais vu, en fac de droit de Nantes, un leader politique venir faire un meeting. Ça, je peux vous l'assurer.
Mais en quoi les campus, l'université ne pourraient pas, quand bien sûr les cours sont terminés, être un espace de.
Pour le tour, il n'y a que la gauche, vous le savez bien. Allez à Rennes 2 avec. Allez à Rennes 2. Envoyez Jordan Bardella à Rennes 2. Vous allez voir.
Mais moi, j'étais à Assas, qui n'était pas à l'époque proprement une université de droite.
Des zadistes.
Excusez-moi, mais il n'y avait pas de leader politique qui donnait des cours qui faisait des meetings dans les amphithéâtres de Assas. C'était un endroit qui était apolitique, ou en tout cas, on s'interdisait de faire venir des responsables politiques.
Allez, c'est tout ça et pas.
Et moi, je vivais bien.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Interdire ou permettre ? Et si on permet,
Ce qui est important, c'est le deux poids deux mesures. Voilà. Oui, si on interdit pour tout le monde, on interdit.
Pour qu'on accorde à tout le monde.
Après, je suis pas sûr que l'université soit faite pour accueillir les leaders politiques.
Bah, moi, je crois pas.
Ils peuvent s'exprimer dans d'autres endroits. Monsieur Golnadel.
Oui. Il va parler que 10 minutes. Je m'inquiète. Mézaphone. Vous voulez un neufon?
Non mais. Connaissez ce mot de Talleyrand?
Je voulais cultiver les
nez sourds parce que.
Non mais. La vérité m'oblige à reconnaître que c'est le militantisme, il est à l'extrême gauche. Oui. Pardon, c'est eux qui savent, qui ont le savoir-faire, l'énergie nécessaire pour occuper les facultés. Moi, quand j'étais étudiant, il n'y avait que des stands d'extrême gauche. Alors là, j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit l'UNI, mais c'est pardon.
Ce qui est nouveau à Sciences Po, c'est comme maintenant tu recrutes, non plus sur un concours anonyme. Oui. Mais sur l'oral, tu sais qui tu recrutes,
bien sûr.
Parce que tu sais qui tu es en face de toi.
Ce que je ne sais pas...
Et comme ceux qui recrutent, à mon avis, privilégient un type de profil...
Bien sûr. Et ce que je ne sais pas, c'est est-ce que M. Mélenchon va être aussi extravagant que hier ou avant-hier, lorsqu'il comparait le président de l'université...
On en a parlé.
On
en a parlé ici. On en a parlé vendredi matin.
Voilà.
Nous avons commencé l'émission comme ça. Et figurez-vous que M. Roussel, du Parti communiste, a pris ses distances. Il est bien, M. Roussel, parce que là, il prend ses distances clairement. Avec M. Mélenchon,
ça ne date jusqu'au pas
jour. Oui, jusqu'au jour, et c'est la thèse de beaucoup, c'est quand il va avoir une candidature unique en 2027. On va oublier tout ça.
Il y aura
ça.
Une candidature unique à gauche en
2007. D'accord, mais enfin, on n'est pas obligé.
Mais oui, parce que c'est à ce type
de. Ça dépend de quelle candidature.
Quand Mélenchon va se retrouver devant tout le monde à 15, 16, 17, 18, vous allez
le
voir.
C'est pas le faire. Pardon, on n'est pas obligé de se caler sur M. Roussel.
Oui,
écoutons-le, on l'a pas entendu. Laissez-le, il était bien lancé.
Pour constater l'ignominie du propos de M. Mélenchon. Il y a toujours une référence à gauche.
Mais non, mais il est plus classique, cher confrère. Qu'un homme de droite condamne Jean-Luc Mélenchon, qu'un homme de gauche qui était allié avec lui dans la NUPES.
Mais un homme tout court, un honnête homme tout court.
Ce que dit William était assez juste, c'est que il est vrai que
les amis m'appellent William.
Les gens de droite ont toujours besoin d'aller chercher une caution à gauche pour leurs propos. Ça n'arrive pas.
Oui, mais sauf que vous m'avez classé.
Je dis pas que vous êtes de droite,
je ne suis pas.
Pas vous, Pascal.
Mais là, il y a une tendance.
Est-ce que vous pouvez laisser ça d'abord? Vous faites du bruit.
Mais qui s'est permis de mettre ça là?
Mais c'est ça.
Enfin.
Pourquoi vous touchez ça?
C'est incroyable. On met un clavier à machine à écrire devant mon micro.
Non, ça s'appelle un tapis de souris. Je veux juste rétablir la vérité.
À mon époque, c'était un machine.
La machine à écrire.
Ça peut terminer.
C'est un tapis de surmulot.
Si vous arrivez à taper la machine à écrire,
la machine à écrire, il y a peu de machines à écrire.
Retour chariot.
En revanche, je vous ai vu arriver en R16 tout à l'heure devant Europe numéro 1, mais il n'y a plus de machine à écrire.
Je dois reconnaître que je ne brille pas par la modernité.
Ah, bon, vous le reconnaissez.
Je n'en tire aucune vanité.
Sauf vestimentairement.
Ah oui, à la pointe. Oui, ça oui.
Son olivier à boule.
Ça oui.
Bon, écoutons M. Roussel sur Jean-Luc Mélenchon.
Et puis, à ce parallèle dressé par Jean-Luc Mélenchon entre Adolf Eichmann, le logisticien de la solution finale pendant la Seconde Guerre mondiale, j'explique pour ceux qui nous écoutent, et le président de l'université de Lille 3, qui avait annulé la première conférence. Oui, mais... Fabien Roussel, est-ce que vous avez été convaincu? Moi, je ne vais pas vous demander de condamner les propos de Jean-Luc Mélenchon. Mais il s'est expliqué. Il a dit qu'il faisait référence à Hannah Arendt, à la banalité du mal, aux mécanismes qui conduisent certains à aller à l'odieux. Est-ce que ces explications vous ont convaincu?
Mais c'est bien la raison pour laquelle je ne me retrouve plus du tout dans Jean-Luc Mélenchon, puisque ses propos excessifs discréditent tout le reste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il compare un professeur d'université à un nazi. Il m'a moi-même comparé à un nazi, il est discrédité. Je peux rien dire. C'est indéfendable ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Indéfendable. Voilà.
Bon, je suis en train de voir, moi, les images et je viens de les envoyer à Benjamin. Non. Que dans l'élite, dans la fabrication de l'élite française, Sciences Po, les gens qui vont, a priori, qui devaient diriger la France, c'était ça. C'est sans doute de moins en moins le cas. Que les gens, comme je suis en train de le voir, applaudissent à tout rompre, vous entendez bien, à tout rompre, lorsque Jean-Luc Mélenchon arrive dans cet amphi, effectivement, ça peut d'abord me surprendre et ça peut ensuite m'inquiéter, après la séquence qu'on vient de vivre. Ce sont des jeunes gens formés, sans doute d'un niveau supérieur, en tout cas en termes d'études, à bien d'autres, et là, ils sont, je le vois, je l'ai sous les yeux, ils ne sont pas 10, ils ne sont pas 20, ils sont beaucoup en train d'applaudir à tout.
Que des étudiants de Sciences Po.
Vous avez raison.
À un théâtre extérieur.
Vous avez raison. Vous avez raison. Bonne remarque. Oui. Police et extrême gauche. Je voulais vous faire écouter, même s'ils ne représentent au fond pas grand-chose.
On papote entre nous. On a le droit.
Non, vous n'avez pas le droit.
On va terminer un internat.
Geoffroy de Laganerie. Ouais. C'est très intéressant parce que. Il représente un certain courant. Donc, il est présenté comme sociologue, comme philosophe, etc. Je voulais simplement vous faire écouter ce qu'il dit, parce que c'est des gens qui ont une certaine influence, parfois auprès notamment d'une population assez jeune, sur la police et ce qui se passe parfois, selon lui, dans les cités ou dans les banlieues.
La question de la police, c'est une question centrale pour moi. C'est une question qui dit beaucoup de choses de l'habitus et de la capacité à dire la vérité, parce que la police est peut-être l'un des corps sur lesquels les discours qui circulent publiquement, qui sont acceptables publiquement, sont le plus mensongers par rapport à la réalité de ces pratiques dans les quartiers populaires notamment. Et le fait que la police tue, ce n'est pas une opinion, c'est un fait, c'est un donné de la politique. Il y a systématiquement, de manière ritualisée, organisée dans nos sociétés, des processus de mise à mort, notamment de jeunes garçons noirs et arabes, une vingtaine par an. C'est toujours le même type de population qui est exposée à ce type de mort, soit par des contrôles d'identité, soit aujourd'hui beaucoup plus par les refus d'obtempérer, puis ensuite la voiture de police qui course quelqu'un et qui le tamponne et qui fait qu'il y a un accident. Donc ces mises à mort, elles sont systématiques, elles sont systématiquement serrées, elles sont souvent validées par le processus judiciaire. Et donc ça veut dire que la police tue n'est pas une opinion radicale, c'est un constat. Et ça veut dire que si ça apparaît comme une phrase scandaleuse, c'est que l'opinion dominante, acceptable, respectable sur la police est mensongère par rapport à la vérité de la police. Et donc effectivement, c'est un test. Et d'ailleurs, c'est un test d'autant plus grand pour moi que je considère que tout parti politique qui a été à la manif des policiers devant l'Assemblée nationale ne peut plus se revendiquer de la gauche, que ce soit Olivier Faure, que ce soit le PSC, que ce soit Yannick Jadot avec les Verts, etc. Être dans cette manifestation-là, c'était prendre position à droite et du côté de la droite même dure. Donc je pense que c'est un test très très important, ça.
Il est coutumier du fait, tous les six mois.
Écoutez, vous lui faites beaucoup d'honneur.
Vous avez raison.
Franchement, il est allé à France Inter, en toute tranquillité, expliquer qu'il serait d'accord pour censurer les gens de droite. Oui. C'est pardon, mais ça vole. C'est un petit esprit. C'est tout.
Ça serait un métier quand même de jargonner à ce point-là sur un mensonge. C'est du talent, quoi.
Non. Aucun talent.
Avec le fait qu'ils disent qu'il y a une intentionnalité chez les gardiens
de la paix. Tout est faux.
C'est faux. Pas diffamatoire, ça n'existe pas.
Une mise à mort. Ben, je pense que je suis assez d'accord. Je suis d'accord avec vous.
Systématise, mise à mort.
Oui, je suis d'accord avec vous.
Il y a un sujet.
Je suis d'accord avec vous.
Il y a une phrase qui engage plus que.
Oui, mais c'est assez.
Il y a la manifestation contre le racisme et l'islamophobie a bien eu lieu ce dimanche dans les rues de Paris. Vous l'avez peut-être croisé si vous êtes parisien. Cette marche est jugée ultra sensible, notamment en raison d'éventuelles réponses aux violences policières et de possibles slogans antisémites. Je vous propose de voir quelques slogans et d'écouter ce qui s'est dit hier dans les rues de Paris.
Urgence ! Urgence ! La police assassine !
Urgence ! Urgence ! La police assassine !
Urgence ! Urgence ! La police assassine !
Urgence,
urgence, la police assassine.
Urgence, urgence, la police assassine.
Urgence, urgence, la police assassine.
Urgence, urgence.
je ne sais plus qui disait quand même ce matin, et ça c'est vrai, que les manifestations en France sont moins importantes qu'elles ne le sont pour défendre la Palestine à Londres, à New York. C'est Philippe Guibert qui disait ça ce matin.
À Bruxelles.
Même Bruxelles, à Bruxelles, Bruxelles, Londres.
Bon, le gros sujet du jour, c'est Gabriel Attal, évidemment, pour expérimenter les internats. Et il était en déplacement à Nice aujourd'hui. Restez avec nous parce que vous allez voir des séquences qui sont drôles. Et ce que j'ai trouvé formidable, c'est l'attitude de nos gouvernants qui rient en permanence quand ces jeunes parlent. C'est pas drôle du tout. C'est pas drôle du tout. Je sais pas pourquoi ils riaient.
C'est inquiétant, en fait.
Et mais quelques secondes avant, voilà. Jure l'autorité.
Voilà, c'est-à-dire que vous avez Éric Dupond-Moretti qui passe son temps à rire. C'est pas drôle du tout, en fait. Il n'est pas au spectacle. Je vous assure, j'étais très étonné de ça. Alors, je vous propose de voir d'abord le sujet de Maxime Lavandier. Et puis après, dans la deuxième partie de l'émission, on verra pas mal de petites séquences. Ça nous a beaucoup intéressés. Mais voyez d'abord le sujet de Maxime.
Ce matin, c'est distribution d'uniformes pour Gabriel Attal. Ces 20 jeunes de 13 à 16 ans en situation de décrochage scolaire vont expérimenter l'internat éducatif mis en place dans ce lycée pendant les vacances scolaires.
Tu as quitté le droit chemin pour toi ?
Non, je ne l'ai pas quitté, mais je dérive, j'ai envie de dire.
Tu dérives ?
Ouais.
Bah c'est bien déjà que tu le reconnaisses. Et c'est quoi, par exemple ? Ça veut dire quoi, de dériver ?
Je rentre pas à l'heure, je sors quand je veux, je me réveille pas.
Des dérives ou de mauvaises habitudes prises par ses élèves que les parents souhaitent gommer.
Ça intéressait autre chose que le téléphone.
Voilà. Est-ce que vous sentiez que vous aviez de plus en plus de mal peut-être à...
Ah, oui, ouais. Tout à fait.
Beaucoup sur l'écran ?
Ouais, beaucoup
sur le téléphone.
Sur le téléphone.
Et la réponse du Premier ministre ne va pas lui plaire.
Bah c'est bien, ici en plus il y aura une petite cure sans téléphone. Tu vas voir qu'on peut faire plein de choses.
Pour Gabriel Attal, l'internat est un rempart contre la délinquance.
Il y a un problème de violence chez les jeunes. On voit une violence de plus en plus tôt, de plus en plus juvénile et manifestement dans un certain nombre de cas de plus en plus débridée. Je pense que l'internat c'est une très bonne solution. Ça permet de couper un jeune de ses mauvaises fréquentations. Ça permet de redonner un cadre quand à la maison c'est difficile d'en donner parce qu'il y a d'autres frères et sœurs, etc.
Un séjour totalement gratuit pour les familles qui durera 12 jours et que le gouvernement souhaite étendre à d'autres établissements pendant les vacances scolaires.
Bon, il se démène, il cherche à faire changer les choses, il prend conscience de la réalité.
Trouve un peu seul.
Non mais, c'est quand même nouveau.
Oui. Ah, le vocabulaire a changé, et je pense que la détermination politique aussi. Mais est-ce qu'un homme seul, fût-il Premier ministre, peut arriver à...
Ah, il n'est pas seul, il est avec Éric Dupond-Moretti, oui, mais vous dites il est avec le gouvernement, vous dites seul ça, il n'est pas seul.
Dupond-Moretti, il y a deux ans, il faisait l'inverse de ce que l'État peut faire aujourd'hui.
Et les choses... Oui, mais alors... Que voulez-vous que je vous dise ? Il tente quelque chose. Comment ?
C'est le monde à l'envers.
Non, mais il tente quelque chose.
Il s'agit de 15 jours. 15 jours en internat. Certes, ça peut sortir ces jeunes d'un milieu toxique, du quartier, d'un environnement.
Non, mais il y a quelques résultats.
Mais je suis d'accord avec vous.
Mais il y a son intention.
Et Attal aussi, il se sent seul, vous inquiétez pas.
Comment ?
Gabriel Attal, lui aussi, il se sent seul. Il est parfaitement conscient d'être un peu seul sur ce sujet.
Bien sûr.
J'ai rien à dire.
Non.
Non.
Franchement, j'ai rien à dire. On n'est pas obligé.
Mais comment dois-je interpréter ce silence ?
Je veux pas être, inutilement blessant. Voilà.
Vous trouvez que c'est de la com, quoi ?
Oui, c'est.
Vous trouvez que ça sert à rien ?
C'est de la communication, et je pense.
Vous trouvez que ça sert à rien, que c'est un coup d'épée dans l'eau ?
Je le vis comme un constat d'impuissance.
Oui. Donc rien ne sert à rien. Faut rien faire. On reste chez soi et puis on ferme la maison.
Il y a des.
Non mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Plus rien.
Mais
fini.
Pascal, c'est
non,
mais,
on plie les.
Non, mais moi, je ne crois qu'à la prévention et à la répression. La répression, c'est les juges quand ils voudront bien réprimer, et la prévention, avant tout, c'est l'immigration. Tout ça, pour moi, c'est.
Mais bon, on va marquer.
Et encore une fois, je ne parlais pas parce que je ne voulais pas être inutilement blessant, mais vous voulez savoir ce qui se passe à l'intérieur, c'est ça. Ouais.
Mais rappelons que le premier dossier dont s'est chargé Gabriel Attal était la tentative de CNU, vous vous rappelez, ce service national universel, qui était plutôt une idée intéressante, mais qui a avorté. Et on atterrit sur une proposition qui est. Pourquoi pas, mais ce n'est pas à la hauteur.
Bon. On va marquer une pause et nous allons revenir avec quelques échanges. Et je vous ai dit, ces échanges, c'est intéressant parce que vous entendez, on n'entend pas forcément comment parlent les jeunes gens aujourd'hui. ont 13 ans, 14 ans, ce qui, voilà, on dit qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Ben, on va le savoir après la pause, ce qu'ils ont dans la tête. À tout de suite. Le Premier ministre est donc en déplacement à Nice ce lundi pour ses internats, tester ses internats. Et moi, je vous propose de voir cet échange de Gabriel Attal avec ces jeunes gens qui sont donc en difficulté, qui sont visiblement quand même conduits par leurs parents, et c'est les maires qui étaient là d'ailleurs, et parce que les maires ont pris conscience qu'il faut faire quelque chose pour ces jeunes gens. Moi, je trouve ça intéressant pour les 10 ou 15 qui vont être là, c'est déjà intéressant pour eux. Je ne sais pas qui paye d'ailleurs. Personne ne dit qui paye. J'imagine
c'est... Impôts, Pascal.
Je pense que c'est nous qui paye.
Je crains que M. Gonnadet ait raison.
Je pense que c'est nous, effectivement.
Ça coûte moins cher qu'après.
Mais voyez cet échange de Gabriel Attal qui échange avec ces jeunes gens.
Est-ce que vous êtes content d'être là d'abord? Non, c'est rassurant. Voilà. Parce que si vous étiez trop content d'être là, on se dirait que ce n'est peut-être pas utile pour vous. Non, donc pas content d'être là, mais là quand même, parce que c'est vos parents qui vous ont dit, il faut y aller, c'est ça? Qui veut témoigner, vas-y.
Ma mère, elle m'a forcé, c'est tout.
Elle t'a forcé, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a donné comme argument pour t'expliquer?
Elle m'a dit que j'allais partir en vacances.
D'accord.
En mode, elle m'a dit qu'il y avait des activités et tout ça, mais il n'y a rien.
Et pourquoi tu voulais pas? Pourquoi tu voulais pas, toi?
Parce que je voulais rester avec mes collègues, je sais pas, dehors et tout.
Dehors? Et pour faire quoi dehors?
Je sais pas, sortir avec mes collègues, manger dehors et tout.
D'accord. Bon, mais ici, tu vas être avec d'autres jeunes. Toi, comment ça s'est fait pour toi ici?
Non, moi, je suis pas content du tout. Ma mère, elle m'a obligé. Elle m'a forcé. Elle m'a dit que c'était bien. Et je vois que c'est pas bien, là.
C'est soit je vais au bled les 2 mois de vacances, ou sinon, eh ben, je vais les 2 semaines ici. Et du coup, je préférais choisir ici, mais ça se fait pas. On m'a dit que j'allais redevenir dans le droit chemin, mais...
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as quitté le droit chemin pour toi?
Non, je l'ai pas quitté, mais je dérive, j'ai envie de dire. Je rentre pas à l'heure, je sors quand je veux, je me réveille pas.
C'est intéressant, le témoignage de ces jeunes.
Non, mais je partage votre avis, c'est extrêmement intéressant.
On voit d'ailleurs que les politiques ne sont pas habitués à une telle expression, peut-être un tel récit.
Je suis d'accord avec vous, c'est instructif. Alors, écoutez cette mère de famille également qui a témoigné.
Ce n'est pas une punition que je leur inflige, voilà. Que j'espère à la fin de ce séjour qu'ils puissent en sortir avec beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de respect. Et puis peut-être qu'ils trouveront leur voie professionnelle pour après. Que je les aime, que je ne vous abandonne pas, déjà. Voilà. Là, pour commencer. Voilà. Et leur montrer que ne pas. Enfin, il y a beaucoup plus de choses à faire quotidiennement que de rester dans les quartiers à traîner. Vous allez apprendre énormément de choses.
Bon, alors, on se dit, simplement, pourquoi elle-même n'arrive pas à...
Et où sont les pères?
À mettre cette autorité en place.
Pascal, où sont les pères?
Oui, ben, je suis
d'accord. C'est l'un des problèmes.
Que grandissent le plus d'enfants en difficulté. Et simplement, c'est inadressable comme problème. Vous n'allez pas empêcher les femmes et les hommes de divorcer.
Non, mais
tu peux très
bien... Al-Donaouri, sa grande explication du problème de cité, c'est l'absence de père.
Absolument. Oui.
C'est-à-dire que dans les années 70, la famille était là, elle était présente, les familles ne se séparaient pas de la même manière. Et notamment,
le père travaillait,
il y avait effectivement...
Il incarnait l'autorité.
Il y avait effectivement quelque chose de différent.
Vous ajoutez à ça le fait que dans la culture arabo-musulmane, un gamin de 13 ans a plus d'autorité qu'une mère adulte, et vous avez une autre partie du problème. C'est-à-dire que moi, je ne la blâme pas, la maman, de ne pas réussir... dans ce rôle-là.
Mais est-ce qu'on peut généraliser là?
Non, c'est pas une question de généraliser.
Mais c'est vrai que là, j'ai remarqué comme vous, c'est majoritairement des garçons.
Oui, et puis...
Il y avait une jeune fille, j'ai l'impression, une ou deux jeunes filles, mais globalement, c'était...
Intéressant, d'ailleurs, la jeune fille, elle dit qu'elle est volontaire. Enfin, en tout cas, qu'elle a choisi entre 2 mois au bled ou 2 semaines ici, et qu'elle a préféré 2 semaines ici. Les autres ne sont pas contents d'être là. Moi, je suis désolé, hein, mais vous avez envie de leur envoyer le François Berléand des choristes, hein, quand même, parce que c'est quand même pour eux une chance unique, en fait. d'être repêché avant de devenir, avant de sortir complètement du droit chemin, comme ils disent. Et ils sont là à se plaindre et.
Écoutez, une autre séquence. Fois, c'était ça. Hein, oui, on était pas sages, on avait de mauvaises notes, on travaillait mal, on avait des problèmes d'autorité. On envoyait le garçon, la fille, en pension.
Bon, c'est vrai que quand vous voyez ça, forcément, c'est aussi une photographie de l'immigration. Évidemment. Des devoirs.
Oui. De jeunes Français issus
de l'immigration. Bien sûr. Donc c'est important sans doute de le souligner. Alors écoutez, une autre séquence où le Gabriel Attal parle d'Emmanuel Macron.
Vous en pensez quoi de Macron ?
Ah bah moi je travaille avec lui donc. Comment ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi tu dis ça ? Non, non. Bon, en tout cas, ici tu vas apprendre plein de choses. Vous allez faire plein d'activités.
C'est pas bien, toi.
Et puis vous allez, je suis sûr qu'à la fin, vous serez content d'être là. En arrivant, c'est sûr, c'est pas. Vous vous dites, je serai peut-être mieux ailleurs pendant mes vacances. L'idée, c'est qu'à la fin, vous ayez perçu l'utilité et l'importance d'être venu ici.
Non, mais...
Bon, on se revoit tout de suite, de toute façon.
À votre avis, cet enfant, pourquoi il a dit Emmanuel Macron est méchant ?
Moi, j'imagine que c'est à la maison qu'on a employé cette expression. Il ne l'a pas deviné tout seul.
Non, la relation, peut-être qu'il a observé dans la relation président Attal une subordination et
non, mais chacun, je pense,
il a écouté la presse
à 8 ans.
Mais c'est pas Alain Duhamel, mais je ne pense pas qu'il répète ce qu'on lui a dit.
Je trouve très désobligeant.
Non, mais chacun, effectivement.
Mais vous savez qu'avant, avant, il y avait les colonies de vacances. Oui, je vois ça.
Oui, bien sûr.
Avant.
Non,
mais ça c'était avant.
De vacances.
On peut lui reprendre.
Vous devriez mettre.
C'est formidable.
Oui.
Qui a fait une colonie de vacances ici ?
Non,
moi, mais je me suis.
C'est ma vie dans les colonies de vacances.
Moi, ça me déprimait. Moi, ça me déprimait aussi. J'en ai fait deux.
Je voyais sur la plage, comme ça, ces pauvres enfants. Je me disais, pourvu que je.
Non, moi, j'ai fait.
Parce que parfois.
Je les ai fait à partir de 6 ans.
Moi, j'ai de bons souvenirs.
Moi, j'en ai fait une ou deux. J'ai de très mauvais souvenirs.
Très bons souvenirs.
Très bons, moi.
Ben oui.
Et si on peut peut-être parler de vos... Moi, j'aime bien qu'on parle de vos colonies de vacances et vos cartes postales.
Non, mais il nous
et
fait parler, il nous interroge. Avec, ici, c'est perdant-perdant. Ou on ne parle pas et on se fait engueuler, ou on parle et on se fait moquer. C'est perdant-perdant. C'est un... Ouais.
Très bien vu. Très bien vu. Ouais.
Bon, dernier passage sur la laïcité et l'entrisme. Et après, nous parlerons d'un autre sujet.
Ouais.
Je suis très... attaché à la laïcité et attaché aussi à expliquer, faire comprendre à nos jeunes qui parfois ne le mesurent pas ce qu'est la laïcité. Que la laïcité, c'est une liberté. La laïcité, c'est ce qui permet de se forger une conviction. On le voit qu'il y a des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à tester en permanence notre résistance et notre capacité à faire respecter la laïcité. Ils cherchent à pousser des jeunes à faire une forme de prosélytisme religieux au sein de leur établissement scolaire. Ce qui m'a amené en tant que ministre de l'Éducation nationale à prendre une décision que j'assume d'interdire le port de tenues religieuses, l'abaya et le camis. Interdiction qui est respectée. Il n'y a plus de port de l'abaya et du camis dans nos établissements scolaires. Donc comment est-ce qu'on fait respecter la laïcité ? D'abord l'éducation, ensuite le soutien à nos personnels et enfin les sanctions. Et j'assume totalement les mots qui ont été les miens sur l'entrisme. Il faudrait être aveugle ou de très mauvaise foi pour ne pas le constater. Ce sont nos personnels eux-mêmes qui nous le disent régulièrement.
Bon, c'est intéressant parce qu'il y a un moment, il ne va pas pouvoir tenir tout le temps que sur la baïa. Ce n'est pas non plus la bataille de la Marne. Vous voyez,
cela dit.
Bon, mais c'est vrai que.
Je suis d'accord avec vous. C'est une bonne victoire.
Non, mais c'est une bonne victoire.
Rapide,
mais
simple.
Je suis d'accord avec vous, mais on ne peut pas résumer.
Non.
Il faut qu'il fasse autre chose.
Oui.
Il y a un moment, la baïa. Voilà. Je vous dis, ce n'est pas la bataille de Normandie non plus.
C'était il y a 6 mois.
C'est pas Churchill ou c'est pas. Vous voyez ce que je veux dire.
Mais il a obtenu ça par une circulaire. En 6 mois.
J'entends bien.
Ce qui est pas rien.
J'entends bien, mais je trouve ça très bien. Mais de ressortir. Il y a autre chose dans la France que de porter des abayas. C'est tout ce que je veux vous dire.
C'est son empreinte politique pour l'instant.
Oui. Mais oui. Vous m'avez compris. Oui. Alors, ce matin, sur Europe 1...
Madame, tiens, tu me l'enlèves de la bouche. Où est Madame Belloubet?
Ça fait deux idées que je lui donne à l'oreille.
Vous avez vu?
Où est Madame
Belloubet? Je crois avoir vu Sabrina Agresti-Roubaix.
Oui,
je sais avoir vu Éric Dupond-Moretti.
Oui.
Mais il me semble qu'on est dans un cadre d'éducation nationale. Oui. Où est la ministre de l'Éducation nationale?
Sa présence n'aurait pas été incongrue.
Bah, elle était même requise.
Mais oui.
Non, ça ne vous choque pas, Pascal? Non,
mais c'est une bonne remarque.
Ah oui.
C'est lui, hein. Bon. Je vais piquer ton truc.
On change de sujet. Ce matin sur Europe 1,
hein,
dans le journal de 6h30, Charles L'Huillier, qui est le correspondant permanent à Montpellier, a ouvert le journal de 6h30 par un témoignage que j'ai trouvé absolument sidérant. C'est l'opération Place Nette qui se poursuit donc à Montpellier. Et Charles L'Huillier est allé voir, un mois plus tard, ce qu'il en est aujourd'hui.
Très bien.
Est-ce que les dealers sont toujours là ou pas? Il a recueilli deux témoignages que je trouve sidérants. Le premier, c'est Younes, qui est dealer. Écoutez-le.
Moi, alors ici, mon rôle, c'est de commander les guetteurs. T'as vu, je suis payé 150 euros par jour. J'ai juste à poster les guetteurs le matin et le soir, les déplacer de leur poste et les payer. D'accord. Et ils touchent 130 euros par jour. Ben, si je fais le calcul, 150 par jour, après 4000 euros par mois.
Et tu vas à l'école ou comment ça se passe?
Non, j'ai arrêté tôt l'école. Ici, comme je t'ai dit, t'as eu ta voiture, tu la laisses, tu laisses les clés, ça bouge pas, il n'y a pas de vol.
L'opération Place Nette alors?
Ouais. Franchement, ça a servi à strictement rien du tout, je te dis la vérité. Ouais, eux, ils viennent, ils bloquent dans le charbon, dans le four, quoi, t'as vu? Mais en fait, nous derrière, on a des livraisons, nous, t'as vu? On n'a pas que, le point de deal, t'as vu? On a des livraisons, on a des envois par colis, on a des. T'as vu, tu vois? Il n'y a pas que du surplace, quoi. Place Nette, franchement, ça nous a pas fait mal. Ça nous a rien fait. Place Nette, ça sert à rien, franchement, strictement à rien.
Bon, pour avoir échangé avec Charles ce matin à l'antenne, il y a aussi un peu de provocation, peut-être, chez ce jeune homme qui fanfaronne un peu.
Ah,
c'est possible, je ne l'exclus pas, en tout cas.
Moi, je pense que Younes, sans provocation, est dans une explication purement technique. C'est tout. Ah, bon, c'est comme ça que je l'entends.
Et le deuxième passage, et après je vous donne la parole, c'est le guetteur. Alors écoutez bien, la première fois que j'ai entendu le guetteur, j'ai cru que sa voix était déformée, comme ça se passe parfois. Pas du tout, c'est juste un enfant.
Mais oui.
Mon Dieu.
Ça me rapporte 100 euros par jour.
Ah oui ?
Ouais.
Et pourquoi tu fais ça ?
C'est comme ça, on est des employés, c'est un point de deal, c'est fait pour les clients, ils achètent et voilà.
Tu sais, il y a eu l'opération Place Nette, là.
Ouais, elle part au Place Nette, on s'en bat les couilles. Faut que le Hazi débite. S'en bat les couilles. Faut que le Hazi débite tous les jours, le point de deal, il est ouvert. Et nous, les guetteurs, on est fait pour ça, pour crier « Ah, quand il y a la police ».
Mais t'as quel âge, en fait?
Moi, j'ai 14 ans, il y a des jeunes de 20 ans, des jeunes de 16 ans. Voilà.
Place Nette, t'en penses quoi, l'opération Place
Nette? L'opération Place Nette, je vous dis, il va servir à rien parce que le point de deal sera toujours ouvert. Il y a toujours des toxicomanes qui voudraient leur dose. Et voilà, et nous les guetteurs, ben, tant que ça nous paye, voilà. Même dans les autres charbons, ce soit à Figueroles, à la Grappe, c'est tous les charbons vont ouvrir.
C'est quoi les charbons?
Les charbons, c'est les terrains, c'est les points de deal. Mais qu'est-ce que vous voulez vous dire, monsieur? Les places nettes, ça sert vraiment à rien. La police, ça s'en bat les couilles d'eux, monsieur. Il n'y a que des clients qui achètent, monsieur, c'est ça.
En fait, voilà. Mais quand ils viennent, vous partez?
Ouais, quand il y a la police, ouais, on part. Et oui, c'est ça. C'est le chat et la souris. C'est comme ça, frérot.
Je trouve que c'est les deux témoignages les plus sidérants que j'ai reçus de toute la journée.
Mais... On le sait, mais c'est édifiant de l'entendre comme ça. On le sait. Mais il y a une...
Je répète ce que j'ai dit au moins 10 fois ici. Un, effectivement, les toxicomanes et les consommateurs doivent être beaucoup plus sévèrement sanctionnés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Par ailleurs, je pense que le problème principal dans les banlieues, c'est le problème de la drogue. Et pas seulement dans les banlieues, dans les villes,
dans les
campagnes.
Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour ces gosses-là? Qu'est-ce que vous faites pour ce jeune homme? Personne ne sait répondre à cette question qui est la plus simple au monde. Qu'est-ce que vous faites? Puisque ces jeunes-là te disent l'opération Place Nette, ça ne sert à rien.
La prévention et la répression, comme disait...
Mais la prévention de quoi? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec ce jeune homme? Vous lui faites quoi? C'est quoi votre solution?
Alors, en fait, la raison pour laquelle il fait ce métier, entre guillemets, c'est justement parce qu'il est mineur. C'est beaucoup plus pratique pour un trafiquant
d'avoir un mineur. Une fois que vous avez dit ça, vous faites quoi de ce jeune homme ?
Eh bien, vous le mettez dans la séquence juste avant dans l'émission, dans un internat, mais un peu version musclée.
Oui. Et vous lui entendu qu'elle est fermée.
Bien sûr.
Oui, parce que la réalité, c'est que, effectivement, la sanction, il s'en bat les couilles.
Oui. D'ailleurs, il l'a dit.
Pour reprendre son expression.
Oui, c'est vrai.
La police, il n'est pas dans la provocation, le môme. La police ne lui inspire pas le début d'un commencement de crainte.
Donc on fait quoi ?
Eh ben, je vous ai dit...
Mais il ne faut pas louper la prochaine génération.
Pardon, répression, prévention. Répression. Voilà, je peux me répéter 20 fois. Hein.
Oui, mais alors concrètement ? Concrètement, c'est-à-dire qu'on ouvre des centres de rétention
Non, mais mon problème, ce n'est pas la loi. Mon problème, c'est les juges. Je reproche rien à la loi. Je reproche tout au juge. Pardon de vous le dire.
Ce gamin, il a été scolarisé. Il y a bien un moment où ça a décroché, comme on dit.
Je sens pas qu'il aille à l'école tous les matins.
Non, mais
on sent un certain flottement éducatif.
Éducatif, oui,
un moment.
Normalement, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans ou 17 ans.
Il y a une chose intéressante sur PlaceNet aussi, c'est que le directeur de la Provence a failli être licencié pour avoir fait une couverture qu'on avait cru être en fait ce témoignage-là. C'est-à-dire, il est parti, Macron est parti et nous, on est encore là. Et en fait, ce qu'ils disent, eux, ils disent exactement la même chose que les policiers qui travaillent sur le sujet, notamment les flics des stupes, en fait, sur le fait que PlaceNet ne sert à rien. C'est super, ça nous fait plaisir parce qu'en fait, on préfère ça que rien. Mais le vrai sujet, c'est de démanteler des réseaux, en fait.
Bon, le procès en appel à Nice, deux proches de l'auteur de l'attentat au camion Bélier qui a fait 86 morts à Nice le 14 juillet 2016, sont jugés en appel à partir de ce lundi 22 avril à Paris. Un nouveau procès aussi douloureux qui oblige à replonger dans ce drame, disent les parties civiles. Elles espèrent au moins une confirmation des condamnations de première instance. On peut peut-être écouter Noémie Schulz qui a assisté aujourd'hui à la première audience.
La première journée a été consacrée à l'appel des témoins et des victimes. Elles sont plus de 2500 à s'être constituées partie civile, mais très peu avaient fait le déplacement à Paris pour l'ouverture des débats. Les associations qui les représentent évoquent les difficultés pour elles de se déplacer, payer un logement, dégager du temps puisque le verdict est attendu mi-juin. Des victimes qui seront toutefois à nouveau plus de 230 à venir raconter à la barre l'horreur de ce 14 juillet 2016 avec pour la première fois des enfants de moins de 13 ans attendu, soit ici à Paris, soit depuis Nice par visioconférence. Là, inquiète certaines associations qui estiment que ça n'est pas à leur place. En première instance, le président de la Cour d'assises avait d'ailleurs refusé d'entendre ses victimes âgées de 4 ou 5 ans au moment des faits. Il avait donné la parole aux pédopsychiatres et aux parents, mais certaines familles ont insisté, ont dit que c'était important que ces très jeunes enfants soient entendus. Autre différence avec le premier procès, il n'y a que 2 accusés contre 8 en première instance, 2 proches du terroriste condamné l'un et l'autre à 18 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. Mohamed Graieb et Chokri Chafroud avaient clamé leur innocence tout au long des audiences, assurant n'avoir jamais rien su des projets terroristes de Mohamed Laouej Boulel. Ils avaient fait appel de leur condamnation et leurs avocats plaideront à nouveau l'acquittement.
Et nous suivrons évidemment ce procès ces prochains jours. Kenji Girac, nous sommes levés ce matin. Il est sorti d'affaire et c'est tant mieux. Le chanteur Kenji Girac a été très grièvement blessé par balle. C'était ce matin dans les Landes, hospitalisé à Bordeaux. Son pronostic vital était engagé lorsqu'on a commencé l'émission ce matin à 9h. Heureusement, il ne l'est plus. Il avait gagné The Voice 3. Il avait 18 ans, il n'a que 27 ans. C'était il y a quelques années. Et effectivement, les conditions paraissent, en tout cas, encore à préciser. Voyez le sujet de Sarah Fenzari.
C'est aux alentours de 5h30 ce lundi que les gendarmes ont été appelés sur l'aire des gens du voyage de Biscarrosse dans les Landes pour un homme grièvement blessé par balle au thorax. La victime, le chanteur Kenji Girac, est transporté d'urgence dans un hôpital de Bordeaux. Conscient lors de sa prise en charge, l'artiste a justifié le coup de feu comme étant la conséquence d'une mauvaise manipulation de son arme, achetée la veille dans une brocante. Une balle a transpercé sa poitrine et est ressortie par le dos. Une plaie grave, évoquée par les pompiers. Selon une source proche du dossier à CNews, l'arme de poing 9 mm a été retrouvée dans un buisson, sans chargeur dessus, ni à proximité. Des prélèvements ont été faits sur sa conjointe. La même opération sera effectuée sur la victime. Un homme, se présentant comme son oncle, a affirmé qu'il ne s'agissait pas d'un règlement de compte, mais bien d'un accident. Des proches de Kenji sont actuellement entendus. Son audition à lui ne devrait pas se faire avant demain.
Attendons d'y voir plus clair avant de prononcer.
Oui,
si je puis,
bien sûr.
Nous sommes d'accord, mais l'important c'est qu'il soit évidemment, ces jours ne soient plus en danger. Dans l'actualité aujourd'hui, la plainte contre Guillaume Meurice a été classée sans suite. L'humoriste avait notamment qualifié le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de sorte de nazi mais sans prépuce. Le 29 octobre dernier, lors d'une chronique sur France Inter, la plainte déposée le 18 mars a été classée sans suite pour motif infraction insuffisamment caractérisée. Je trouve ça très intéressant pour tout vous dire.
Pourquoi vous trouvez ça intéressant?
Parce que... Il est possible que quelqu'un d'autre aurait dit ça ou sur un autre non, leader.
Non, honnêtement, non. Très sincèrement, non. Alors, je ne fais aucun procès d'intention au procureur qui a classé sans suite. Ça n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que traiter quelqu'un de cette manière est répréhensible pénalement. Il se trouve que le juif circoncis qui a été traité de nazi est premier ministre en Israël actuellement et qu'il... Il aurait dû manifester son intérêt pour cette affaire. Et d'aucuns pensent qu'il a des activités accessoires qui l'intéressent davantage que de s'occuper d'un humoriste de service public syndicalisé.
Vous dites qu'il aurait dû porter plainte ? C'est à lui
de porter plainte ? Non, il aurait suffi qu'il envoie une lettre à l'association qui s'est occupée de ça en disant qu'il ne voit pas d'inconvénient
à ce que.
Et ça suffisait pour voir M. Meurice en mauvaise posture. Donc, il n'a pas à triompher du tout. Mais par contre, je suis suffisamment souvent sévère avec la section presse du parquet de Paris pour dire que là, elle n'y est strictement pour rien.
D'accord. On peut apprécier l'honnêteté intellectuelle de M. Golnadel.
Votre étonnement m'étonne.
J'ai pas dit étonné, j'ai dit non. Oui, apprécier.
Oui, oui, d'accord.
On parle souvent de la mairie de Nantes, un drapeau israélien peint au-dessus de celui de la Palestine sur un escalier devenu emblématique dans la nuit de hier à aujourd'hui à Nantes. Le problème, c'est que la mairie de Nantes laisse depuis des semaines ce drapeau palestinien. Donc effectivement, la mairie de Nantes encourage les réactions à ce drapeau palestinien qu'elle refuse. Alors, je crois que c'est dans un quartier de Nantes qui est assez connu du côté de la butte Sainte-Anne, et vous avez effectivement des escaliers. Sur ces escaliers, un drapeau palestinien a été peint il y a quelques semaines de ça.
Il y a aussi un drapeau israélien juste au-dessus.
Oui, oui, mais c'est ce que je viens de vous dire. Oui, c'est-à-dire qu'il vient, c'est le drapeau, et il a été peint au-dessus, parce qu'en fait c'est une surenchère. Comme la mairie de Nantes a laissé ce drapeau palestinien, a refusé de faire ce que n'importe quelle autre mairie aurait fait.
Au final, c'est un beau symbole.
Oui.
Les deux États.
Oui.
Au final, oui.
Au final, je trouve que c'est bien. Vous remarquerez que les gens qui ont mis le drapeau israélien se sont bien gardés de masquer l'ensemble du drapeau palestinien.
C'est ce que je disais.
Je trouve qu'au final, c'est un beau symbole.
Écoutez, vous saluez donc la... L'initiative de la mairie de Nantes.
Mais ça n'est pas la mairie de Nantes.
Ça n'est
pas la mairie de Nantes, c'est un collectif juif qui a fait ça.
Elle a eu raison, donc, selon vous, de ne pas...
Je crois qu'elle ne fait rien. Elle avait laissé le premier. Il ne manquerait plus qu'elle enlève le drapeau israélien.
Depuis un mois et demi, l'escalier était devenu un objet de discorde. Dans la nuit du 7 au 8 mars, les marches qui mènent au point culminant de la ville avaient été recouvertes dans un premier temps de noir, blanc, rouge et vert en soutien à la Palestine. De quoi offusquer les élus de l'opposition de la ville dirigée par Madame Roland, et c'est un collectif qui s'appelle Nous Vivrons qui a peint ce drapeau israélien.
Oui.
Autre sujet, démission du maire de Mions pour donner suite aux actes antisémites. Je vous propose de voir le sujet de Corentin Alonso, parce que là aussi ça témoigne de ce qui se passe aujourd'hui en France avec le maire de Mions, Monsieur Cohen.
Il a été élu deux fois maire de Mions, mais à 75 ans, Claude Cohen n'a plus envie d'exercer sa fonction. Si le rôle de maire est difficile, ce sont les attaques antisémites qui l'ont décidé à démissionner.
Avec le nom de famille que je porte, je suis
systématiquement attaqué avec des propos antisémites. J'ai déposé plainte. La personne qui a été entendue, elle a été en garde à vue 2 heures. Une deuxième personne qui avait fait des dessins de moi antisémites, j'ai déposé plainte. Et puis, il a été condamné à 3 mois avec sursis. Mais ensuite, il y a eu une erreur de procédure classée sans suite.
Des insultes qui lui ont fait du mal. Mais le maire peut compter sur le soutien de ses habitants.
Tous les habitants m'ont envoyé des pages, des mails, des mots extraordinaires de soutien. Ouais. Tout le monde me dit « Non, Claude, reste ». Non, mais j'ai déjà prévu de partir. Dans ma tête, je suis déjà un peu parti.
La préfecture a entre 8 jours et 2 mois pour acter la démission du maire. Ce dernier souhaite malgré tout continuer de siéger au conseil municipal et au conseil de la métropole.
Ben, c'est la situation d'aujourd'hui. Très sincèrement. Ce que vous ne dites pas, c'est que l'un de ses conseillers municipaux, comme il l'a raconté ailleurs, est arrivé avec l'écharpe du Hamas.
Alors je me permets, Gilles William, de te dire que le Progrès de Lyon a fait vérifier cette information en voyant donc les vidéos, les captures d'écran. Oui. Il s'agissait du drapeau palestinien, ça a été rectifié dans la journée.
Alors, à supposer même.
Non, mais c'est pas, je te donne.
Non, non, mais tu as raison. Si c'est le cas, autant pour moi. C'est possible. Une chose est sûre, c'est donc lié très fortement à des problèmes identitaires. Une fois plus, on voit bien le changement pour la communauté juive et l'antisémitisme qui sévit des progrès irrésistibles de l'immigration. Alors je vous le dis une nouvelle fois, c'était mieux avant. Et c'était mieux avant, non seulement pour les juifs français, mais pour tous les Français.
Il nous reste quelques minutes pour évoquer ce qui se passe aux États-Unis, puisque c'est une nouvelle inquiétude là aussi pour les Juifs. C'est Pessah hein, qui commence ce soir.
Ce soir.
C'est la Pâque juive.
2 soirs ici, 1 seul soir en Israël.
Donc le président
Pourquoi
des États-Unis.
Parce que les Juifs sont arrivés en terre promise. Donc ceux qui sont en terre promise n'ont pas à faire le deuxième soir. Voilà l'explication.
D'accord. Le président des États-Unis a condamné un antisémitisme dangereux alors que les étudiants de l'université new-yorkaise Columbia ont réclamé que l'établissement boycotte toute activité en lien avec Israël. Écoutez Elisabeth Guedel.
L'ambiance est très tendue sur le campus de la prestigieuse université new-yorkaise. Il y a quelques jours, la police était intervenue pour déloger des manifestants. Mais ce week-end, les manifestations pro-palestiniennes ont tourné au harcèlement. Des étudiants juifs ont été la cible de propos antisémites très virulents, au point que l'un des rabbins de l'université appelle les étudiants juifs de Columbia à rester chez eux, à ne pas revenir sur le campus tant que leur sécurité n'est pas assurée. Le maire de New York, Eric Adams, s'est dit horrifié et dégoûté par cet antisémitisme ambiant à Columbia. Même la Maison-Blanche a réagi dans un communiqué qualifiant d'inadmissible et de dangereux les appels à la violence et les intimidations physiques visant les étudiants juifs. Du côté de la direction de Columbia, on affirme faire tout pour assurer la sécurité de tous les étudiants, y compris évidemment des 5000 étudiants juifs du campus. La présidente de l'université s'était engagée à le faire lors de son audition devant le Congrès la semaine dernière. Aujourd'hui, certains parlementaires parlent d'échec et appellent à sa démission.
Joe Biden a affirmé, on l'a vu tout à l'heure, son soutien aux Juifs. Ces derniers jours, nous avons été témoins de harcèlement et d'appels à la violence contre des Juifs. Ceux qui reviennent de New York actuellement, et on en croise tous, sont sidérés.
Mais c'est parce que c'est un problème.
De ce qui est devenu New York.
Oui, parce que
ce que devient New York.
Ça n'est pas conjoncturel. C'est maintenant un problème de fond qui a trait à l'islamo-wokisme, qui a trait au racisme anti-blanc. Les Juifs étant considérés maintenant plus comme des métèques comme avant, mais comme des Blancs, la Shoah n'inspire plus une grande pitié, c'est maintenant l'esclavagisme. En tous les cas, pas évidemment la traite arabique, mais l'esclavagisme, la traite transatlantique. Et donc, il n'y a plus aucune compassion pour le passé. Il y a beaucoup d'antipathie. Pour le présent, je pense que c'est un phénomène de fond.
Ça fait 50 minutes, presque une heure que nous sommes ensemble. On ne peut pas dire que l'actualité soit souriante.
Non.
Je ne sais pas si nous avons eu matière à sourire depuis que nous avons pris l'antenne. Non. Donc nous pouvons adresser ce soir tous nos voeux à nos compatriotes juifs qui nous écoutent, qui sont nombreux et qui vont célébrer Pessah, ce soir, avec ce qu'on appelle le
Pessah.
repas de Seder.
Oui, le Seder.
Le Seder.
Avec la Megillah où on raconte, la Gada où on raconte le transport des Juifs vers la Terre promise.
Et on leur transmet, évidemment, on pense aux otages, bien sûr, qui sont toujours détenus à Gaza.
Et d'ailleurs, beaucoup réserveront une place pour un otage à la table du Seder.
Donc c'est évidemment vers eux que nos dernières pensées vont à cet instant, avant de donner la parole à notre ami Olivier Benkemoun.
Bonsoir, Olivier. Orion, Oad, il faut rappeler les trois franco-israéliens, 199 jours. Demain, ce sera le 200e jour de captivité. Et il y a de quoi être consterné pour les Juifs de France. Tout à l'heure, je vais vous montrer des images de Fontenay sous bois. Ce week-end, peut-être d'ailleurs qu'on va déjà les voir. Je vais me pousser. C'était ce week-end. C'est une rencontre de football dans un gymnase municipal. Alors, partout, il y avait le drapeau palestinien. On a même mis en scène des enfants. On dirait qu'il va y avoir une mise à mort. Vous voyez, ce genre de mise en scène pour... Il y a des plaintes qui vont être déposées, il y a deux plaintes qui vont être déposées, mais c'est tous les jours, en réalité, tous les jours, et c'est la raison pour laquelle les Juifs de France ont peur. On va en parler dans un instant. On recevra, je suis très heureux de recevoir Estelle Youssoufa, qui est députée de Mayotte. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Mayotte, l'opération qui est Wambushu 2, qui est aussi une opération Place Nette. On en parlera évidemment dans un instant.
Je salue Laurent Pratt qui était à la réalisation aujourd'hui, Nicolas qui était à la vision, Amanda qui était au son. Merci à Benjamin No, à Robin Piette, à Guilhem Lafage. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Je salue Dominique Grimaud d'ailleurs qui nous écoute, qui dit « Vous n'avez rien de plus léger ». Et effectivement, lorsqu'on construit, comme tous les soirs, une émission de télévision, on s'est fait la réflexion tout à l'heure avec Benjamin No, avec Guilhem Lafage, etc. Cette actualité... Elle est effrayante. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On la traite pas, on parle d'autre chose. Mais je vous promets, demain...
Vous la traitez, soir, on peut terminer sur quelque chose parfois.
On essaye d'ailleurs de terminer souvent sur quelque chose de plus léger. Et je vous promets que demain soir et même demain matin...
Oui, enfin, la marque de cette télévision, ce n'est pas de fuir la réalité non plus.
Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais on peut aussi avoir une note...
De temps en temps.
Et sourire, ce qui nous arrive. Par exemple, souvent, votre vestiaire est un...
Oui, c'est un sujet, mais c'est quand même ambigu comme attitude vis-à-vis de moi en même temps. Réfléchissez au fondement de cette moquerie.
C'est un motif de sourire.
Pas non plus. Je ne veux pas me plaindre ce soir.
Parfois.
Voilà.
Bon, vous savez l'amitié et la tendresse que nous avons pour vous.
Oui. Partagez.
Olivier, dans une seconde, rendez-vous demain matin.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.